pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Vous savez comment on utilise un préservatif ?
Ouais.
On va se le refaire, ça fait longtemps que je l'ai déjà fait.
Vous
l'avez fait 40 fois, mais il y en a plein qui disent monsieur les préservatifs, ils sont pas solides, ils pètent tout le temps. Je vais le mettre là-dessus, comme ça vous verrez mieux, tous. Ils sont au fond. À une époque, on faisait effectivement sur nos doigts, et en fait, c'est quand même loin de la réalité, donc c'est un peu idiot. Alors là, on a un sexe en bois qui a été fait par un CFA menuiserie qui nous a affilé, effectivement, qui nous a envoyé ces sexes en bois. Ils l'ont fait vert volontairement, histoire comme ça, il n'y en a aucun qui projette. Hein. Les noirs vont dire c'est pas la mienne, les blancs vont dire c'est pas la mienne, les asiatiques non plus, elle est verte, si ça n'existe pas, un mec a la peau verte, on est d'accord ?
Maître Yoda. Donc,
Maître Yoda ou Shrek, éventuellement, si tu veux. C'est pénible de mettre un préservatif, à votre avis ?
Il s'appelle Didier Valentin, il parle le jeûne avec des jeunes, même si ça fait plus de 10 ans qu'il est animateur de prévention au CRIPS, le Centre Régional d'Information et Prévention du Sida. À la demande des établissements scolaires, il intervient dans les classes de lycée et de collège d'Île-de-France, où il mène des ateliers d'animation à la vie sexuelle et affective, qui peuvent également servir de prévention au harcèlement, conduite sexuellement déplacée, tournante et autres affaires de viol qui secouent le monde en ce moment. En France, l'éducation à la sexualité fait partie du socle commun des connaissances et des compétences que les élèves doivent avoir acquis au cours de leur scolarité. Cette éducation se dispense à tous les niveaux de l'école. À l'école primaire, les jeunes élèves sont censés recevoir 3 heures d'information environ à la sexualité par an, proposée par le maître ou la maîtresse, qui l'intègrent comme ils le veulent à leur programme. Au collège et au lycée, c'est le chef d'établissement qui organise ses séances. Il peut demander l'intervention de personnes extérieures, comme aujourd'hui Didier Valentin, ou bien il peut s'adresser à l'infirmière de l'établissement et lui demander de s'en charger. L'éducation sexuelle à proprement parler se fait en classe de 4e, à l'âge de 13-14 ans, dans les cours de SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Les élèves étudient à ce moment-là le système reproductif, les appareils reproducteurs, la grossesse, les méthodes de contraception, mais ne réfléchissent pas beaucoup, ni aux stéréotypes, ni au sexisme auxquels ils sont confrontés et qu'ils reproduisent, comme on l'entend jusqu'à 14 heures dans les pieds sur terre au cours de cette animation pédagogique, ô combien nécessaire, mais pas forcément suffisante, et qui a lieu dans 2 classes de seconde d'un lycée des Lilas, dans le 93, et c'est un reportage de Delphine Saltel, réalisé par Benjamin Hu. C'est notre retour sur du vendredi, et c'est une proposition de réponse que nous vous donnons à cette question posée aujourd'hui par la journée spéciale de France Culture, hommes, femmes, et maintenant, comment faire ?
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bien, on va faire un état des lieux. On va parler un petit peu de la société dans laquelle on vit, parce que c'est bien de parler de la relation. Vous allez comprendre où je vais en venir. Hein. Et on va démarrer un petit peu par les pubs. J'ai pris quelques exemples que je vais mettre là. Hein. Dolce & Gabbana, vous connaissez tous cette marque. Donc eux, pour vendre leurs fringues, ils font la référence un peu au viol collectif, hein, en termes d'image. Vous voyez ce que je veux dire ?
La fille, elle est toute seule, et ils sont 4 hommes. Il y en a un, il est limite sur elle. Je sais pas, on dirait elle subit l'action, on dirait elle va se faire violer ou je sais pas quoi. Non, mais c'est super choquant quand j'ai vu ça.
C'est marrant, là.
Ça vous inspire quoi, globalement ? On se sert du corps des femmes pour faire quoi, là ? Le corps des femmes sert énormément à vendre. Ça fait quand même des années que ça dure. Dans les pubs, les femmes, elles mangent leur yaourt comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, le yaourt au niveau de la hanche. Hein. Vous mangez jamais votre yaourt comme ça, enfin, je suppose.
Ah oui, alors qu'en vrai, c'est même pas comme ça.
Pourquoi, à votre avis, on vend le corps des femmes comme ça pour utiliser les produits ?
Parce que le corps d'une femme est plus beau que celui d'un homme.
Du point de vue d'un homme, déjà, quand une femme elle a un beau corps, ça attire. Et d'un point de vue d'une femme, quand on regarde une femme qui a des belles formes, ça donne envie d'être pareil, quoi.
Mais vous l'avez vu, la pub des Skittles ? Même elle a été censurée en France à cause de ça. C'est des bonbons.
En plus, c'est pour les enfants, en plus.
C'est pour les enfants.
Ouais.
Non, vas-y, raconte.
C'est genre, c'est un mariage et c'est la lune de miel et ils font ce qu'ils font en fait. Et au moment où la femme, on va dire, lâche, il y a plein de Skittles.
Et lâche, ça veut dire quoi ?
Quand elle jouit et quand l'homme aussi jouit, et ben il y a plein de Skittles. Et la fille, elle est super contente.
On met en scène un orgasme pour vendre des bonbons, en fait, c'est ça ? Ouais. Alors, je sais pas si... Si vous regardez bien, il y a quand même énormément de pubs où on joue beaucoup sur la sexualité. La sexualité ou la relation, déjà. On va parler de la relation, c'est pas par hasard, si je vous parle de ça. C'est que la manière dont on va se regarder, dont on va apprendre à se regarder, ça aura un impact très fort sur notre sexualité. Dans la rue, très jeune... En fonction de nos changements de corps, on sexualise déjà beaucoup le corps des femmes, on sexualise moins le corps des mecs. Pour être plus concret, pour que tu comprennes rapidement, j'ai un kebab en face de chez moi, j'ai 10 mecs devant qui glandouillent toute la journée. Ouais. Les filles arrivent sur le trottoir, en général elles font... Pourquoi elles font ça ?
Parce qu'elles ont peur.
Elles ont peur de quoi ?
Qu'on les regarde et qu'on les critique.
Elles ont peut-être peur de se faire interpeller ou de se faire draguer, ouais. Je sais pas. Je pense que c'est ça.
On va pas se mentir, les gars. Je suppose que ça vous est rarement arrivé de passer devant un kebab avec des mecs qui disent « Ton boule, il est bon. Qu'est-ce que tu fais avec les saucisses ?» Alors, si tu poses la question à tes copines, tes sœurs, ta mère, tous les gens féminins autour de toi, est-ce qu'elles ont vécu à un moment ou à un autre dans leur vie ces moments-là ? Oui ou non ?
C'est horrible. Il n'y a que ça. T'écoutes pas, t'avances. Enfin, il n'y a que ça à faire. Enfin, à l'époque, il y avait un chantier à côté du lycée. Tous les matins, à 8h, à 9h, à n'importe quelle heure, il y avait des gens qui hurlaient du haut des toits. Ils appelaient les filles. Mais c'était constant, hein, du matin jusqu'au soir. En fait, ils ne parlaient pas, ils faisaient que des anomatopées. En fait, du coup, bah, ils faisaient que des « Eh, ah !»
Entre groupes de garçons, ils veulent, je sais pas, concours, je crois. Ils veulent voir c'est qui va avoir la fille à la fin. Parce que s'ils sont tout seuls, ils vont pas parler à la fille. C'est juste quand ils sont en groupe, non ? Eh, je te promets !
Il y a aussi une jeune femme de Marseille, je crois, à la base, qui a monté un mini-blog, hein, où elle récupère un petit peu les phrases qui sont balancées aux filles dans la rue, ce qu'on appelle le sexisme de rue. Ça s'appelle « Paye ta schneck », parce qu'un jour, un mec dans la rue lui a dit « Paye ta schneck ». Et donc, c'est des phrases de rue où on a ce genre de choses. « Je voudrais être un chien pour pouvoir te sentir le cul. »
Ça peut jamais marcher, ça. Ça peut pas marcher, ça.
Mais le mec, il s'intéresse pas si ça marche ou pas. Ça lui vient comme ça.
C'est une phrase de malade, en fait. C'est un déchet, le mec qui dit ça. C'est un déchet.
Comme il a fait beaucoup de prison. Où je voulais en venir, c'est que cette manière qu'on a de se regarder les uns les autres, elle aura un impact sur notre vie affective, on est d'accord. Mais forcément, on va se regarder différemment en fonction qu'on a un garçon ou une fille. Depuis toute petite, les filles, elles sont habituées, malheureusement, à ce que leur corps soit mis en avant sur des pubs pour vendre des produits, et ce que leur corps soit montré tout le temps. Les garçons, je vous rappelle que ça vous arrive jamais. Quand vous êtes en short, vous jouez au foot le dimanche, il n'y a pas une tribune entière de filles qui fait « tes cuisses, elles sont bonnes
». Quand il y avait Beckham à Paris, il y avait des femmes, elles allaient dans les stades pour Beckham. Hein.
Ouais. Regardez ses fesses à Beckham.
Mais est-ce qu'elle l'insultait ?
C'est Beckham en même temps, non ?
Des fois, quand on passe dans le lycée, il y a des groupes de filles qui se sentent, on va dire, fraîches. Je sais pas comment dire, qui se croient belles. Et comme elles sont en groupe, elles parlent beaucoup, en fait. Comment il est habillé, lui, ou je sais pas, bizarre, des trucs comme ça.
Des critiques, tu veux dire ?
Ouais, des critiques, voilà, exactement, des critiques. Et des fois, ça me fait souffrir. Je sais pas.
C'est vrai que maintenant, les filles, on n'ose plus trop se mettre en jupe. Parce que, ça dépend. Après, ça dépend des jeunes filles, de leur éducation. Mais c'est vrai que maintenant, on voit de moins en moins de jeunes filles se mettre en jupe. On préfère... la sécurité, les pantalons.
C'est pas comme si une fille, elle met une jupe, elle va se faire violer direct. Parce qu'elle dit sécurité, et à croire, elle pense sécurité en jupe.
Genre, on n'a pas... En fait, on se fait moins juger si on est en pantalon que si on est en jupe, j'ai envie de dire.
Ça dépend aussi du style qu'on porte, par exemple. Les pantalons tout déchirés, voire même les leggings, ça n'empêche pas les hommes aussi de fantasmer dessus. Hein.
D'un côté, c'est à cause des femmes aussi.
la manière dont il s'habille.
C'est vrai.
Que une femme qui est victime, par exemple, d'une agression ou d'un viol, c'est de sa faute, parce que la manière dont elle est habillée.
Si elle met un short qui lui arrive au ras du cul, c'est normal. Hein. Si elle veut pas se faire truc, faut qu'elle mette une robe ou un truc où on voit pas ses formes, comme ça. En fait, s'il y a deux femmes, une où on voit pas ses formes et une qui les montre beaucoup, le violeur, il va prendre celle où on voit ses formes.
Donc tu vois, on en est arrivé là. C'est exactement ce que tu dis, je voulais le sortir. En fonction de la taille du vêtement, ce que tu viens de dire, on va déterminer qui je suis. Bon. Une fille, elle peut aimer être en jupe, même courte, parce qu'elle aime ça. Alors après, ça peut te renvoyer, toi, à ton histoire personnelle, ça peut te renvoyer à ce qu'on appelle la pudeur. Toi, tu peux estimer qu'une fille, elle montre trop de son corps. Mais est-ce que ça justifie les insultes?
Oui. Non, ça justifie pas. La réponse est oui. Ça ne justifie pas. Une fille s'habille comme elle veut.
T'es en hiver, t'as pas mettre de mini-jupe.
Attention, les gars, mélangez pas tout, hein. On est dans quelque chose de grave, là.
Une fille peut aimer se faire regarder sans pour autant chercher à se faire violer.
C'est une... Ouais, donc c'est michetonneuse. Une allumeuse.
Ouais, c'est une allumeuse, exactement.
Mais tu vois, ces mots-là, ce que vous donnez là, on les a pratiquement qu'au féminin, et curieusement, chez les mecs, ça passe plutôt pas mal. Tu peux draguer. Est-ce qu'une fille peut parler aussi facilement de sexualité que les garçons dans un lycée ou à l'extérieur dans la vie? Pourquoi? Pourquoi?
Parce que ça fait vulgaire.
Voilà.
Ça fait vulgaire.
Alors qu'il y en a, même si elles aiment, et elles ont envie de parler de ça, bah elles vont se retirer juste parce que c'est, on va dire que c'est une pute par exemple.
Mais il y a aussi, il y a des filles, des fois même sur Facebook, il y a des filles, on dirait exprès.
Non, en fait, elles mettent leur sein sur leur
cul. Elles mettent leur sein, leur cul, tout ça.
Tu peux être maladroit dans ta manière de séduire. Les filles à vos âges, souvent aussi, elles se cherchent hein, dans leur manière d'être avec les autres. Je peux avoir 15 ans et montrer mes seins sur Facebook, ça ne veut pas dire que je suis une salope. Ça veut juste dire que peut-être que je suis dans une phase de séduction et peut-être que je le fais très mal. Mais j'ai aussi, finalement, on peut peut-être pousser plus loin, peut-être la liberté d'avoir envie de le faire. Pourquoi pas?
Mais après, les personnes viennent pas nous dire « Ouais, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu dis que je suis une pute, la fille ?» Elles font des positions pour montrer leur cul. Frère.
Mais ça vient de quoi, à votre avis, cette manière de se mettre en situation, en position comme ça, sur Internet? Hein?
Ça vient des clips.
Ouais, les clips, la télé, tout un tas de choses. Vous êtes nourris à la posture, tu vois, l'air de rien. La télé-réalité, elle est hyper exhibitionniste. T'as vu comment ils tiennent tous, comment ils sont tous habillés? Est-ce que ça peut faire des dégâts quand vous, sur Internet, quand vous montrez beaucoup de vous?
Bah ouais.
Elle
a fait des trucs,
fallait
pas les
faire. Enfin, oui, c'est
une élève. À notre âge.
Oui, qu'à notre âge, elle a mis une photo de profil sur Facebook où elle mettait ses seins. Enfin, les seins nus, voilà. Les seins nus. Voilà. Et ça avait fait polémique à l'époque.
Elle était heureuse.
Elle était contente d'elle, hein. Ça l'avait pas gênée. Donc, ouais. Tout le monde se foutait de sa gueule, la traitait de pute, etc. Enfin. Elle a pris cher. Ça s'est terminé qu'elle avait dit à la fin que c'était pas elle qui avait mis la photo, c'était quelqu'un d'autre. Enfin, elle a trouvé une excuse, mais c'est... on savait que c'était pas vrai. Mais c'était jeune, hein. Elle avait 15 ans, enfin, elle était enfin de 3e, donc voilà quoi. Je pense qu'elle s'en rendait pas compte, donc. Elle connaît pas aussi les dangers de Facebook. Enfin, la photo, elle appartient à Facebook quoi qu'il arrive, donc c'est dangereux pour elle aussi, même si elle la supprime. Le mal est fait. Hein.
Ouais, mais tu vois, je trouve cette histoire, il y en a plein, des comme ça. Hein. Mais elle mesure bien qu'on ne se rend pas toujours compte, quoi. Voilà, tu vois. Vous êtes à des âges où c'est compliqué entre les messages. Je sais pas, on peut traduire ce geste de plein de manières. Ça peut être, je veux exhiber mon corps, certes, mais j'ai aussi besoin peut-être de retour, hein, d'être aimé, tu vois.
Ah oui, je vous ai donné une photo, il n'y a pas de like.
J'en sais rien, on peut traduire ce qu'on veut. On est dans le nerf de la guerre, hein, parce que je suis intimement persuadé que la meilleure des protections, c'est le regard que vous portez sur votre partenaire. Je m'explique. Je n'ai rien à foutre de mon partenaire, c'est uniquement un objet sexuel. Je vais lui faire prendre des risques et je vais en prendre aussi. Si je fais attention à l'autre, le mot il est très clair, je fais attention à toi. Ça veut dire que je n'ai pas le même regard, c'est-à-dire que j'ai une forme de respect dans le regard, donc forcément il y a un équilibre dans la relation. Et la prise de risque, elle est moins forte. Et on va être très clair, même s'il y en a qui jouent beaucoup à ça, les 10 mecs dont je parlais tout à l'heure, qui passent leur journée effectivement... à être un peu insultant vis-à-vis des filles, je ne suis pas certain que dans leur relation, ils soient égalitaires. Parce qu'à force de jouer, on finit par devenir ce qu'on joue.
France Culture, les pieds sur terre.
l'idée, c'est effectivement de se rendre compte que les garçons, ils veulent se rendre compte à un moment ou à un autre que les regards ne sont pas les mêmes, qu'on se construit différemment. Il y a des pubs qui sont très claires, j'avais trouvé celle-là aussi. Ça, c'est quelqu'un qui vend des couettes. Et vous avez vu le garçon, il est dans une couette qui représente un cosmonaute. C'est un mec qui va dans l'espace, donc effectivement, c'est quelqu'un qui est dans la conquête de l'espace. Le message qu'on lui donne à elle, c'est quoi avec sa couette de princesse ?
De rester coincée dans un château pendant que l'homme il vient la libérer dans Disney. À chaque fois, la princesse, bah, elle fait rien du tout. Toujours, c'est elle, elle doit être sauvée et tout. Alors que c'est toujours l'homme qui fait l'action et tout, qui sauve et tout, à chaque fois.
En fait, dès le plus jeune âge, les enfants, ils sont enrôlés dans cette image, en fait. Déjà, rien quand on va au supermarché, par exemple, quand on regarde, déjà, il y a deux côtés pour garçons-filles, pour les jouets. Quand on regarde pour les filles, c'est tout rose, tout. Voilà, c'est tout rose, ça. Et que garçon, c'est bleu. Je sais pas, c'est. Pourquoi on attribuerait une couleur au sexe, par exemple ?
Après, le problème, en fait, c'est que si un enfant, par exemple, il reproduit pas ces schémas qu'on lui a instruits durant toute son enfance, le problème, c'est qu'après, en fait, on va le regarder bizarrement. Par exemple, si, admettons un exemple bête, hein, un garçon qui porte du rose, qui aime jouer au Barbie, etc., forcément qu'on va mal le voir. Alors que s'il respecte bien les schémas, il va être pompier ou ce genre de choses, et ben forcément qu'on le verra mieux.
D'ailleurs, en parlant du truc, par exemple, tu disais les garçons qui s'habillent en rose, j'ai remarqué, par exemple, souvent, les filles masculines, ça dérange personne, mais les garçons efféminés, si, ça dérange.
Moi, si j'aurais un fils, je lui donnerais pas une poupée, quoi. Je lui achèterais pas une poupée.
Pourquoi ?
Bah, parce que c'est... Ouais, voilà, c'est un bonhomme.
S'il demande une poupée, c'est un garçon.
Je l'achèterai pas.
Mais est-ce que plus tard, s'il devient père un jour, c'est pas une obligation, hein, mais peut-être que bah, il aura apporté un bébé, donc un enfant. Donc finalement, est-ce que c'est si incompatible qu'il puisse jouer à la poupée à un moment donné dans sa vie ?
Quand on nous a élevés, on nous a préparé à être un homme, en fait. On nous a pas fait jouer au Barbie. Parce que si un petit joue au Barbie, après, quand il sera grand, il sera bizarre un peu.
Parce que si il va aimer jouer avec des poupées, après il va vouloir se maquiller. Et c'est pas le schéma qu'il devrait reproduire. Alors qu'une fille, je sais pas, à un moment elle va grandir, elle va prendre soin d'elle. Faire comme ses poupées, être aussi jolie que ses poupées. Moi je donnerais pas à mon enfant, à ma fille, des voitures en premier. J'attendrai qu'elle grandisse et après là qu'elle choisisse. Parce que je vais pas influencer sa sexualité.
C'est pas parce qu'un garçon il va jouer à la Barbie ou à la poupée qu'après il va être forcément efféminé ou gay, parce que lui il voit pas forcément de différence.
Moi je pense que si on empêche l'enfant de s'épanouir, enfin c'est pas bien, parce que si un garçon veut une poupée, on va pas lui dire non parce que c'est son choix. Si on empêche l'enfant de faire ce qu'il veut, bah après peut-être qu'il sera pas forcément heureux.
Bah maintenant on est censé accepter l'homosexualité des gens. On va dire.
Quand tu dis on est censé accepter, ça veut dire que tu te sens un peu poussé à accepter ?
Ouais. Bah parce que maintenant, dès que, par exemple, si je vais dire que ouais, moi je suis contre l'homosexualité, ouais, direct, toi t'es homophobe et tout. Hein. Moi je dis rien contre l'homosexualité, mais personnellement, par exemple, si un ami il est gay, ok, c'est son problème. C'est pas pour ça que je vais changer d'avis sur lui, parce qu'il a rien changé. Mais si mon enfant est gay, bah genre, c'est pas dans mes coutumes, c'est pas dans mes traditions, c'est pas dans mes croyances.
Mais tu feras quoi ?
Bah, je sais pas.
Tu
vas le renier. Ben non, quand même pas, c'est mon enfant.
Pour avancer un peu, moi j'ai un petit truc important que j'appelle la règle des 3 C, c'est pas des maths, hein, je vous rassure. Premier C, connaître ses désirs et ses limites. Est-ce qu'on a tous les mêmes limites ?
Non.
Non.
Par exemple, pour certains, les études c'est une limite pour une relation, et pour certains, ils s'en foutent quoi. Les études.
Rien avant le mariage.
Rien avant le mariage, par exemple.
Oui.
Est-ce que c'est facile de tenir les limites qu'on vous pose ?
Oui.
Non.
Pour des gens qui sont religieux, oui.
Juste, vous avez vu, notre société, elle vous parle souvent, et dans l'éducation, c'est une réalité, on vous parle souvent des limites, on parle très peu des désirs. Le deuxième C, c'est si je garde mes désirs et mes limites pour moi, comment l'autre peut les deviner ?
Bah,
il peut pas.
Bah, il va les ressentir.
Donc ça va être quoi, mon deuxième C, à votre avis ?
Communiquer.
Communiquer, ouais. tout bête, hein. Ne serait-ce que si je dis très clairement à mon copain ou ma copine ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas envie de faire l'amour, par exemple, avant le mariage, que je ne veux pas faire l'amour avant le mariage, au moins si je l'exprime, c'est clair. Si je le dis pas, comment l'autre, il peut le deviner?
Parce que si, ils savent leur religion, ils savent qu'ils ne vont pas le faire avant le mariage aussi.
Il y a plein de religieux qui n'attendent pas le mariage. Hein.
C'est soit tu... je vais mettre un peu les pieds dans le plat volontairement. Vous m'excuserez, mais ça fait quand même des années que je suis sur le terrain, donc je connais bien l'histoire. Globalement, ces histoires de virginité, elles sont peut-être écrites dans les religions, peut-être que vous les traduisez comme ça, qu'importe. Mais en même temps, elles s'adressent quand même beaucoup aux femmes, les mecs, ils s'arrangent avec. Hein. Parce que les garçons, souvent, ils disent « Ouais, je veux bien que ma femme soit vierge au moment du mariage, parce que c'est important, mais moi, bon, tu sais, je me suis arrangé, quoi. »
Ouais.
Donc là aussi, il y a une égalité très forte. J'arrive à mon dernier essai, parce que si on ne se comprend pas, on peut être dans une agressivité. Hein. Et avant de faire l'amour avec quelqu'un, avant de toucher quelqu'un, avant d'embrasser quelqu'un, il faut s'assurer de quoi ? Est-ce que j'ai le droit à un truc tout bête ? Par exemple, lui dire, tiens, je mettrais bien ma main sur ton épaule, j'ai le droit de faire ça ?
Ah oui.
Bah non.
Bah non,
s'il n'a pas envie. C'est quoi le consentement ? Important.
D'accord.
Être d'accord. Sauf que dans la vie de tous les jours, vous faites jamais. Est-ce que tu veux bien faire l'amour avec moi ? Oui, je veux bien. Viens, on y va. Jamais.
En fait, on se chauffe. En fait, je sais pas comment expliquer. On se chauffe. On se met dans une chambre. On se met sur un lit. On se caresse toutes les parties du corps. Et après, on voit que la fille. En fait, on le voit en fait. On voit que la fille, elle est prête à se faire. À faire l'amour. À faire l'amour. Ça se voit en fait. On le sait. Quand on est amoureux de quelqu'un, je sais pas. On est avec sa copine. On le voit. On dit pas, hey, s'il te plaît, je peux faire l'amour.
C'est pas rien, tu vois. Là. Cette histoire de consentement. Alors, c'est vrai qu'on se le dit pas toujours. Si je pose la question simplement, ça va, à l'autre, eh ben, je lui ouvre la porte, il va pouvoir me répondre si ça va ou pas. Si je suis prêt, pas prêt, si je suis bien, pas bien, si...
Je suis pas audace, s'il te plaît.
Est-ce que je peux très bien... Est-ce qu'il peut arriver un moment où je ne dis rien et finalement, je suis pas si d'accord que ça ?
Bah oui, ça va arriver.
Comment ? Trouvez-moi une situation.
Un chantage affectif, par exemple. Ouais, on fait un chantage et on dit, ouais, si tu fais pas l'amour, ça veut dire que tu m'aimes pas et tout. Et donc la fille ou l'homme, je sais pas, va se sentir obligé de le faire.
J'accepte parce que j'ai la pression. Alors, il y a le chantage affectif et du coup, il y a aussi la pression. Et l'autre, parce qu'il m'aime ou elle m'aime, ne veut pas, mais en même temps a peur de me le dire, n'arrive pas à me l'exprimer parce qu'elle a peur de me perdre. Ça, c'est important parce que si vous démarrez votre vie affective et sexuelle sur quelque chose de bancal à ce niveau-là, ça va être violent pour votre existence. Parce que, surtout les premières fois en plus, quand c'est pas très clair dans vos têtes, ça peut peser d'une manière très très lourde dans votre construction amoureuse, affective et psychologique. Et pour le coup, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est très important de s'assurer du consentement de son ou sa partenaire. Et ça passe par les mots. Faut pas avoir peur de poser des questions. Parce que des fois, on traduit les envies de l'autre et on se trompe. Il y a un âge du consentement sexuel, tant que je suis là-dessus, c'est quel âge ?
16 ans. 16 ans.
Eh ben, vous avez tout faux, c'est 15 ans.
Ah ouais ?
De quoi ?
Ouais. Ça veut pas dire que le jour de vos 15 ans, vous soufflez vos bougies, vous dites à vos parents, j'ai un truc à faire, on est bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça vous paraît jeune, 15 ans ?
Moi, je pense que 15 ans, c'est l'âge où on n'a pas encore atteint la maturité, qu'on a encore besoin de se construire. On se pose encore des questions, donc je pense qu'il faut apprendre à se construire. Puis je pense que ça vient plus tard.
Merci de vous asseoir 5 secondes, juste pour terminer. J'ai des préservatifs pour ceux qui en veulent.
Oh,
hein ?
Allez, c'est bon, on arrive là.
Les autres, merci, allez, au revoir.
Bon, on va y aller. This is the definition of my life. Lying in bed in the sunlight, choking on the lemon tablets. Love to give in the hope of saving me. In the hope of saving me. Marks in the corner of the room. Junkyard full with eyes in the room. I asked the time again. Take me in, draw the rain. Take me in, draw the rain. Take me in, draw the rain. in the corner by the iron ball. Spray on monsters.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sur du vendredi avec Éducation à la sexualité au lycée, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Benjamin Hu et diffusé pour la première fois le 20 juin 2014. C'est une rediffusion que je vous proposais d'écouter à l'occasion de cette journée spéciale de France Culture, Hommes, Femmes et Maintenant, Comment faire ? C'était donc notre proposition de réponse. Cette journée se poursuit bien sûr sur notre chaîne avec notamment à 18h20 le grain à moudre d'Hervé Gardette qui, avec son club, se posera la question de savoir si les relations hommes-femmes peuvent être tout à fait dénuées d'ambiguïté. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Delphine Lemaire s'est occupée de cette rediffusion et Marguerite Delassas, c'est notre stagiaire.